Salut à tous, je m'appelle Sylvain et vous écoutez Histoire 2, le premier podcast intégralement consacré à Mylène Farmer. Vous pensez avoir tout lu sur Mylène Farmer? Eh bien vous êtes loin d'avoir tout entendu. Références culturelles, coulisses, production, exploitation. Pendant une heure, on va vous raconter, décrypter et débattre à juste hauteur d'un album et d'une tournée. Je ne suis pas tout seul.
Bonjour.
Alors là, je vais me prendre pour Mylène sur Sans Contrefaçon, sur la perruque rose, j'ai Clément. Salut Clément.
Waouh, moi j'ai une perruque rose.
Sous la perruque orange, j'ai Bastien.
J'ai pas besoin de perruque.
Sous la perruque verte, voici Thibaut.
Le plutôt jaune la mienne, non?
Et sous la perruque jaune et à la direction musicale du podcast,
Ludovic.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, Histoire de MF, Histoire.
Avec
on publie pas mal de choses complémentaires au podcast, des vidéos, des photos, des supports. Si vous aimez Histoire 2, pensez à nous donner une petite note sur iTunes, ça
grosse
fait toujours
plaisir.
Et j'en profite pour vous dire qu'on a dépassé les 200 000 écoutes du podcast.
Voilà.
Alors merci beaucoup.
Incroyable.
À tous. J'ai tout dit, alors on commence tout de suite, voici l'épisode 11, l'effervescence, Histoire 2, Tour 96.
Tu peux monter Histoire 2, t'as encore pas besoin Histoire 2.
C'est magique.
Après l'échec de Giorgino et la sortie d'Anamorphosé, Mylène Farmer revient sur scène 7 ans après sa première expérience scénique. Et quel retour, 21 concerts, 300 000 spectateurs, 12 millions d'euros de budget et un spectacle qu'on va vous raconter. Je vous propose pour commencer l'histoire de refaire un tour en 96 et Bastien, comme j'ai dit juste avant, on l'a attendu cette nouvelle tournée.
Non mais à l'époque, l'attente est interminable. Mylène Farmer va-t-elle enfin remonter sur scène? En effet, la dernière fois c'était en 1989, ça commence à faire. Depuis, deux albums sont sortis, l'autre en 91. Épisode 2 toujours disponible et Anamorphosé évidemment en 95. Écoutez, si vous êtes sage, un jour on vous fera un épisode là-dessus.
Je suis pas sûr.
Peut-être un jour,
possiblement. Voilà. À la fin de l'année 1995, elle est donc en pleine promotion pour son album dans l'émission Studio Gabriel et Michel Drucker lui demande au détour d'une question:
quand est-ce que vous reviendrez sur scène?
Très bientôt.
Très bien.
La ferveur.
Donc voilà la réponse que tout le monde attendait, mais il va falloir être un peu patient car si Studio Gabriel est diffusé justement donc le 14 décembre, il va falloir attendre mars 96 pour enfin avoir l'annonce d'une tournée officialisée par campagne d'affichage et via des spots de pub sur la chaîne M6.
Mylène Farmer en concert. Mylène Farmer à Bercy et en tournée.
Et la tournée va arriver à la vitesse d'une locomotive car elle commencera fin mai 96, une première date à Toulon, puis direction Bercy. Et le journaliste Frédéric Bess de la radio Énergie est en direct de la loge de Mylène Farmer le soir du 31 mai en compagnie de la chanteuse.
Nous sommes donc ici à Bercy où 17 500 personnes se sont donné rendez-vous pour ce premier concert parisien de Mylène Farmer. Elle doit monter sur scène dans quelques minutes. Elle est à nos côtés. Mylène, bonsoir.
Bonsoir.
Et tout d'abord, merci de bien vouloir se prêter au jeu du direct. Qu'attendez-vous de ces retrouvailles avec le public parisien? J'imagine que ce premier concert au Palais Omnisports de Paris-Bercy constitue un des temps forts de votre tournée.
Je considère chaque date comme très importante. Donc Bercy, comme Toulon, comme toutes les villes de France, qu'est-ce que j'attends? Une formidable émotion, j'espère.
Et l'émotion, elle sera au rendez-vous. On le sait, les fans sont prêts pour revisiter tout le répertoire de la chanteuse. Mais en 96, il n'y a pas que les fans qui vont revisiter ce répertoire, car la même année sort au cinéma le film Pédale douce de Gabriel Aguillon, avec cette scène d'ouverture culte de Patrick Timsit en plein striptease dans sa voiture décapotable, chantant à tue-tête Sans Contrefaçon et téléphonant son amie Eva, jouée par Fanny Ardant.
Tout un programme.
Sans contrefaçon, je suis un garçon. Je sais que tu es là, Eva. Tu peux faire un effort pour décrocher, s'il te plaît.
Allô.
Au cinéma, la même année, sort Seven de David Fincher, Independence Day de Roland Emmerich, le premier Toy Story des studios Pixar, et le bossu de Notre-Dame des studios Disney, Notre-Dame, où une messe officielle se déroulera le 11 janvier 96, journée de deuil national en France. L'ancien président François Mitterrand n'est plus. Cette même année, disparaissent l'écrivain Marguerite Duras, l'acteur Marcello Mastroianni et le rappeur américain Tupac. Alors de California Love à California Live, il n'y a qu'un pas. Mylène Farmer, prenez l'exit pour vous envoyer sur la scène qui n'attend que vous.
Merci Bastien.
Merci Bastien.
Tout à l'heure, on vous parlera des souvenirs de la tournée et de l'exploitation des supports live, mais tout de suite, place au spectacle.
I'm not afraid to
On va parler de la setlist du concert avec Bastien, mais juste avant, c'est la tradition, vous ne pouvez pas y échapper, on va faire un tour de table pour savoir ce que vous faisiez, vous, pour le tour 96, et j'ai une question, quelqu'un l'a vu ici ?
Ah, ça va, commence pas comme ça !
Je suis seul à l'avoir vu, on peut commencer, vas-y, Bastien.
J'ai une histoire assez importante avec le Live 96, parce que je pense que c'est comme ça que j'ai découvert Mylène Farmer et que je suis devenu fan, donc c'est ma mère qui avait acheté le CD argenté du Live à Bercy, et je l'entendais, j'ai tout de suite accroché à des chansons comme Sans Contrefaçon, etc., que j'avais bien sûr sûrement déjà entendu en radio, etc., et je me suis mis à écouter cette album en boucle, c'est un de ses meilleurs spectacles. Je trouve qu'avec cette tournée, elle fait tout péter en fait. Elle fait péter son image, elle fait péter les watts, elle fait péter ses cheveux, puis à la fin, elle se pète même le poignet. Donc,
Thibaut.
Moi, j'avais 6 ans à l'époque, donc moi, je l'ai découvert après, début 2000, grâce à Eddie Mitchell.
Alors, explique-nous.
Bah, en fait, c'est juste que ma mère avait des places pour aller le voir début 2000, mais il a annulé pour des problèmes de santé. Je tairai les raisons.
C'était là,
et du coup, ma mère s'est retrouvée avec un bon d'achat de 200 francs à la Fnac. Et bon, elle m'a dit, prends ce que tu veux. Hein. Mes yeux se sont portés sur cette pochette brillante et incontournable. Et surtout, plus que la pochette, le verso avec cette photo de Mylène sur son araignée géante, ça me captivait. Le coup de foudre a été immédiat. J'ai découvert le film en VHS quelques mois plus tard. Et là, j'étais irrécupérable.
Ludo.
Moi, j'ai 11 ans, je vous emporte avec moi. On est un samedi matin. J'attends Fan 2 pour avoir des nouvelles de mes filles musicales préférées. Et stupeur. Pas de Fan 2 à la place, et programme spécial Mylène Farmer dont je ne sais rien. Et d'un coup, désenchanté. Et alors là, j'étais avec mon père, on a une fascination immédiate pour le titre. Du coup, le week-end suivant, on prend la 505, on part à Auchan, feu mammouth pour ceux qui suivent, et on achètera le double CD du live. Et c'est vous dire l'importance de ce live pour moi. Ça a été pareil, un coup de foudre d'abord musical qui a commencé.
Merci Ludo. Clément.
Ouais, moi je vais gâcher l'ambiance parce que je déteste cette période, je supporte pas ce spectacle. Oh. Voilà.
Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, j'aime ce spectacle à la folie. Mon grand regret, c'est que j'ai pas pu y assister. Pourquoi ? Bah parce que moi, j'avais le droit d'aller à un concert. Il y en a deux auxquels je voulais aller. Il y avait Céline Dion au mois d'octobre et Mylène Farmer au mois de décembre. Donc, comme je suis impatient, j'ai pris le premier des deux, celui qui était le plus proche dans le temps.
Ça reste un très bon choix.
Musicalement, il y a une force dans ce spectacle, une effervescence que j'ai retrouvée dans aucun autre spectacle depuis et qui marque pour moi, vraiment, à titre personnel, une étape importante dans mon apprentissage et mon appréhension de la musique.
Wow.
Ah, c'est fort.
L'année 96, c'est un apogée dans l'industrie musicale et clairement, ce spectacle, pour moi, il a contribué.
Alors, Sylvain, vas-y, on t'écoute.
Je vais encore vous reparler de ma sœur. C'est ma sœur qui m'a offert les billets. Et je lui dis vraiment merci parce que c'est quelque chose qui restera gravé. Mais il faut que je vous raconte l'histoire. Parce que moi, je devais la voir le 18 juin.
Ah.
Et qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, j'étais dans mon train le 16 au matin, tranquillement.
Oh,
j'arrive à Angers et on apprend sur Énergie que Mylène est tombée
sur
scène à Lyon. On vous en reparlera tout à l'heure.
Parler.
Donc, du coup, moi, complètement triste, complètement désemparé.
Rendez-vous manqué.
Mais le rendez-vous sera là le 14 décembre 96 à Angers, à l'Amphithéâtre 4000.
Super.
Et
bien.
C'était énorme. Et j'étais tout émerveillé.
Mais t'as beaucoup de chance. Ouais.
On rentre dans le vif du sujet. Bastien, tu vas nous parler de la setlist et je crois que sans surprise, il y a un album qui domine.
Oui, autant le dire tout de suite, le tour 96, c'est le tour anamorphosé. Toutes les chansons de l'album sont présentes, toutes. Non, sauf une, la chanson Onanisme. À noter une particularité de la chanson California qui commence dans sa version remixée, le Wandering Mix. On écoute.
Juste avec cet extrait, l'ambiance est totalement différente du précédent spectacle.
Il y a une atmosphère vraiment sensuelle dans ce titre et en plus, il faut savoir qu'en live, il y avait des congas sur l'intro qui ont été totalement gommés et c'était encore plus sensuel.
Exact.
Mais c'est vraiment d'une efficacité redoutable, cette orchestration, bravo.
Il y a un autre album qui n'a pas eu de tournée, c'est l'album L'Autre, représenté à minima, avec trois chansons, Je t'aime Mélancolie, L'Autre et bien sûr Désenchanté. Que mon cœur lâche, inédit de la compilation Dance Remixes, est aussi interprété sur scène. Mylène de ses deux premiers albums des années 80, elle ne chante que les tubes Libertine et Sans Contrefaçon. La chanson Ainsi sois-je sera ajoutée vers la fin de la tournée, ainsi qu'une reprise de Michel Polnareff, La poupée qui fait non, en duo avec le chanteur Raled. On va vous en reparler.
Il y a une rupture totale avec le premier spectacle parce qu'elle ne garde que deux chansons. Si je compte pas Ainsi sois-je dans le spectacle d'origine,
c'est le Anamorphosé tour.
Mais je trouve pas qu'il manque non plus nécessairement des chansons.
Non, et puis parce qu'aussi Anamorphosé contient aussi beaucoup de titres qui sont devenus des classiques et donc on ne ressent pas le manque d'anciens titres.
On a parler des chansons, on va quand même faire un arrêt sur l'équipe qui est sur scène, Ludo.
Eh ben oui, sur la direction musicale, c'est sur le Tour 96 qu'on fait la connaissance d'Yvan Cassard. Et je vais vous le présenter ici. Alors, Yvan Cassard, c'est quelqu'un qui s'intéresse à tous les styles de musique, mais qui vient du classique. C'est en dirigeant l'orchestre de Prague pour la musique du film de Laurent Boutonnat, Giorgino, en 1994, qu'il va nouer un lien avec ce dernier et se verra attribuer en 1996, pour la première fois et pour de longues années, le rôle de directeur musical. Alors, directeur musical, je vous le fais en...
C'est quoi un directeur musical?
C'est s'occuper de distribuer leurs parties aux musiciens et créer l'harmonie de tous au sein des chansons.
C'est un chef d'orchestre.
Exactement. Ouais. Yvan Cassard, lui, sera au clavier. C'est à lui que revient donc le choix de s'entourer et c'est avec Laurent Boutonnat qu'ils vont caster des musiciens américains à Los Angeles, tous les deux.
S'il vous plaît.
Et alors, ils vont trouver le chœur, vous savez, l'instrument que j'appelle le chœur, c'est...
La batterie,
bien sûr. Il y a un jeune homme, Abraham Laboriel Jr., pas beaucoup d'expérience, il passe après 10 autres batteurs, et là, Yvan Cassard et Laurent Boutonnat, ils n'ont pas compris ce qui leur arrivait, ils dépassaient tout le monde, quoi. Pour l'accompagner, Laurent et Yvan cherchent une fille pour faire un second clavier et des congas. Susie Davis va entendre parler de l'audition, elle ne connaît rien au conga, donc en urgence elle va prendre quelques cours en se disant que ça devrait passer, elle devrait y arriver, et le jour de l'audition, elle sera retenue, fort de son CV de multi-instrumentiste, car elle joue aussi de la guitare et de l'accordéon. L'occasion de rappeler qu'en plus de faire du clavier et des percussions, Susie jouera aussi de la guitare sèche sur certaines chansons. Bon, à l'évidence, hein, ils n'ont pas tenté de lui faire jouer Libertine à l'accordéon. Mais quel dommage!
C'est trop bien!
Non, mais n'empêche, de l'accordéon, ils auraient pu en mettre sur un 6 soigeux, ça aurait pu être très beau.
Non, mais il y a de très belles utilisations de l'accordéon.
Ça peut être très joli.
À la guitare, on a Brian Ray et Jeff Dahlgren, c'est comme ça qu'on dit. Hein.
Premier rôle de Giorgino.
À la basse, on a Jerry Watts Jr. Et enfin, au chœur, je vais vous parler d'un cas unique dans la carrière de Mylène Farmer. Elle va utiliser deux danseuses qui auront des micro-casques pour faire un tapis vocal. Il y a Donna Delory, choriste pour Madonna de nombreuses années.
Ah ouais.
Et Valérie Bonny, qui deviendra une fidèle de beaucoup de projets liés à la danse pour Mylène Farmer. Mais pour les appuyer, on a aussi deux choristes.
Ouais.
D'abord, Carole Rowley, et maintenant, celle que vous attendez tous, et pour la première fois sur cette...
C'est qui ?
Esther Dobongna Essien, dite Esta Divine.
Ouais,
bah oui. Qu'est-ce que c'est, ça ?
Qu'est-ce qui se passe, Bastien, là? Ils ont pris en otage le micro.
Thibaut, je crois qu'on a perdu le contrôle de l'émission. Là.
Alors, Ludo, c'est quoi ça?
C'est Esther qui chante cette
chanson.
C'est tiré du film Les Sœurs Soleil avec Clémentine Célarier. Oh, bah, elle l'a enregistré pendant cette tournée, figurez-vous. Cette chanson s'appelle Les Hommes, je les consomme. On s'amusait bien en 1996. Et alors, pour finir, le dernier, mais non des moindres, il n'est pas sur scène. Parce que Yvan Cassard a beau être le directeur musical, celui qui va arranger toutes les chansons de la tournée, à l'exception de La Poupée qui fait non, et donner leur couleur, eh bien, ce n'est autre que Laurent Boutonnat.
Ah ouais.
C'est Laurent Boutonnat à qui on doit toutes ces orchestrations directes, énergiques, majoritairement acoustiques. Alors on confond un peu ce terme, hein, ça veut pas dire unplugged, hein, ça veut dire de vrais instruments, pas des instruments électroniques. Bref, il est allé à l'essentiel parce que l'urgence certainement, et c'est d'une efficacité, c'est clairement la réussite du Tour 96, s'être débarrassé des programmations et, comme le portera si bien le nom des supports à sa sortie, faire du live.
Merci Ludo. Histoire de... On va se faire un point échafaudage et écran géant avec Thibaut, un point mise en scène en fait.
Oui, alors pour leur deuxième spectacle, Mylène Farmer et Laurent Boutonnat choisissent la simplicité, hein, en gardant tout de même cette notion de grand spectacle. Hein. Au feu, le cimetière de 89, hein, place un décor presque immaculé et un visuel très brut à l'américaine, hein, dans la continuité de l'album Anamorphosé. L'élément principal, c'est évidemment cet écran géant de 64 mètres carrés, hein, c'est deux fois mon appart. Et aujourd'hui, ça n'est pas de pas, hein, mais à l'époque c'était une prouesse d'avoir un écran de cette envergure.
Il était vraiment mis en avant dans la promo.
Voilà, sur une scène itinérante en plus. Hein. On est vraiment à l'opposé du spectacle précédent. Hein. Mylène Farmer l'expliquait au micro de Nostalgie le 30 novembre 1987.
Entre le spectacle de 89 et celui-ci, qu'est-ce que vous vouliez absolument ne pas reproduire?
Trop de tristesse.
Voilà, on sait toujours ce qu'il ne faut pas faire, oui. On ne sait pas forcément ce qu'il faut faire.
J'ai eu envie d'abord d'évoquer le blanc, alors tout ce que ça peut évoquer pour l'autre. D'essayer de donner de la joie, maintenant de la réflexion bien évidemment, mais quelque chose, l'idée du show en soi, l'idée du show qui est quelque chose de à la fois factice, rapide, mais quelque chose de fondé.
Donc le blanc à l'opposé du noir, quoi, de 89.
L'idée d'un show XXL, hein, fait d'effets waouh et d'images marquantes. Hein. Moi, celle qui m'a le plus marqué, c'est évidemment cette Mylène sur cette araignée géante descend du plafond sur le titre Alice.
À propos d'Alice, moi, je vais rajouter un petit truc. Comment ça se passait en live pour que Mylène, elle monte sur son araignée géante
qui fascinait tant
Thibaut. Ouais. Mais en fait, vous vous souvenez, après l'instant X, il y avait le bœuf des musiciens où chacun fait son solo.
Génial. Fait la chanson juste avant.
Et si vous regardez bien, en fait, sur la vidéo, les musiciens, même Yvan Cassar, il quitte son piano, il prend un petit clavier à bretelles. Et en fait, ils vont tous à l'avant-scène. En fait, le fond de la scène est plongé dans le noir pour être masqué de la vue du public. Pourquoi ? Parce que pendant ce temps-là, à l'arrière-scène, eh ben, on descend l'abdomen au sol, Mylène s'assoit dessus, les techniciens mettent les pattes, on remonte tout ça au plafond.
Tu fais très bien l'araignée qui remonte.
Ouais, ouais. Il y a le noir entre les deux chansons, et comme ça, la chanson commence. Mylène commence sa descente et en fait elle passe vraiment que quelques secondes tout en haut.
Oh, mais c'est trop bien, je savais pas ça.
Là, je savais pas du tout ça non plus.
C'est marrant parce qu'en fait du coup là il réutilise un code quand même un peu de l'ancienne Mylène Farmer avec cette araignée, oui. Mais il le twist complètement en version métallique, high-tech, et donc du coup ça fait un bon lien entre l'ancienne tournée et la nouvelle.
Alors Mylène évoquait le blanc dans l'extrait que j'ai diffusé, c'est la dominante de l'entrée en scène. Il faut savoir que lorsque les spectateurs entraient dans la salle en 1996, ils se trouvaient face à cet écran géant placé au milieu de la scène qui s'illumine avec une espèce de bruit un peu étrange alors que la lumière est encore allumée. Puis là, un grésillement électrique énorme se fait entendre et il enchaîne avec l'intro rallongée de la chanson Vertige et la lumière s'éteint. Au fur et à mesure que la vidéo d'introduction avance, la silhouette de Mylène Farmer se dessine de plus en plus clairement avant d'afficher un des clichés d'Airbritz qui illustre l'album Anamorphosé. Parallèlement, l'écran se recule vers le fond de la scène et là, la batterie s'excite, explosion de lumière et de fumée, et Mylène Farmer apparaît. Elle est sur une plateforme qui s'élève dessous la scène, elle est quasi nue jusqu'à ce qu'un manteau vienne se poser sur ses épaules. Une vraie évocation de la naissance de Vénus, un cultissime tableau de Botticelli, actuellement conservé à la Galleria degli Uffizi à Florence. La chanteuse avance ensuite sur un tapis roulant qui l'amène jusqu'au devant de la scène, devant des fans extatiques, et elle commence le premier titre du spectacle, Vertige. Là encore, l'opposé total de 89, mais
rien à voir avec l'horloge,
aussi rapide et efficace, non ?
Ah bah c'était le meilleur choix, franchement, c'est la chanson pleine d'énergie, excellente cette chanson.
Puis il y a vraiment toute l'équipe sur scène, c'est-à-dire qu'il y a même les danseurs qui sont dans les échafaudages.
Mais Sylvain, dis-nous comment ça s'est passé quand tu l'as vu
apparaître. C'était comment pour toi ?
Ah mais moi c'était irréel, je crois que je ne regardais qu'elle en fait, c'était très bizarre. Tu la vois arriver en plus quand même, comme dit Thibaut,
elle était toute nue.
Elle était presque nue quoi. Ouais. Et à la fin, elle repart et on la revoit plus.
Trappe,
c'est très très étrange, on se dit mais
comment 89 pour le coup ?
Et moi j'ai jamais assisté à des concerts comme ça. Et le premier concert que j'ai fait, c'était Goldman, vous imaginez ?
Oui, puis t'es pas coiffé pareil.
Heureusement. Oui. Et Mylène Farmer évoquait un spectacle avec de la joie, loin de la tristesse de 1989. C'est tout le propos de cette sortie ultra festive sur le tube XXL. Et là, il y a toute la troupe sur scène, les musiciens, les danseurs,
tout le monde est là.
Il y a un petit rappel au clip avec la plateforme en forme d'avant de locomotive.
Là aussi, XXL multiples fois interprété, mais là, la première version est la meilleure.
Ah, ouais.
Finir là-dessus, c'est vraiment un moment festif.
Complètement.
C'est la fin, on salue le public et en fait, on s'en va. Il n'y a pas de chichi, j'ai envie de dire.
C'est vrai. Ouais. Rappelez-vous, la sortie de scène du concert précédent, c'est « Je voudrais tant que tu comprennes » et puis en larmes seul.
Oui, voilà.
C'est vraiment l'exact inverse.
Ouais, on est avec une équipe, il y a une vraie communion dans l'équipe. On le sent, ils sont tous très ensemble et très à l'écoute les uns des autres. Ils sont là pour s'amuser et pour amuser les gens, et c'est un vrai concert.
C'est ce qu'elle disait dans l'interview, c'est on va à l'essentiel, on va au direct. Ça se passe comme ça dans beaucoup de concerts.
Exactement.
La majorité des concerts sont comme ça, de toute façon.
Même moi en second concert, tu vois, ça, je
m'attendais
pas à ça.
C'est pas dans les cordes de Mylène Farmer.
Mais par contre, c'était une explosion de joie, vraiment. Pyrotechnie, machin, tout était là, quoi.
Et je dois dire que sur XXL, en plus, elle porte une tenue très élégante, sobre, une très belle combinaison, moment lumineux et très classe.
Eh ben, tu fais bien de parler des costumes, parce que serait un spectacle sans costumes?
C'est l'entrée en scène, déjà.
En 1996, Mylène Farmer a jeté au feu avec les décors ses longs manteaux de 1989 et elle a mis des paillettes dans sa vie et sur son nombril en jouant la carte de l'ultra-féminité. Hein. Le Tour 96 a été préparé assez rapidement et la collaboration avec Paco Rabanne, célèbre couturier espagnol à qui l'on doit les costumes du spectacle, s'est surtout limitée à une réadaptation des modèles du couturier aperçus dans ses collections présentées en 1995 et 1996. C'est surtout le cas pour la tenue du tableau California ou celle du final sur XXL, comme tu viens d'en parler, Ludovic, hein, qui sont des réadaptations sexy hein, de ce qu'on a pu apercevoir sur les podiums parisiens, ou tout simplement la reprise à l'identique d'une tenue, en l'occurrence le costume noir de Désenchanté.
Je sais pas si vous avez le même sentiment, mais l'effet de groupe avec les costumes des choristes et les costumes même là de Désenchanté, il y a un côté très années 60 dans le stylisme des costumes.
Je t'aime Mélancolie aussi, surtout.
Même sur Etourneau, où elle a un gilet en chaîne, très Paco Rabanne des années 60.
Bah, c'est voilà, très Paco Rabanne le métal.
Il y a juste les matières qui font que c'est dans l'époque, mais le stylisme autour de tout ça, c'est très très années 60. Et très coloré, parce que les années 60 sont très colorées. On a l'habitude de les voir en noir et blanc, mais c'était très très coloré.
Mais c'est marrant que tu dis ça, parce que pour moi, les costumes du Tour 96, ils sont très 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 dans leur époque, donc dans leur milieu des années 90. Ouais, toi, tu les rattaches aux années 60.
Ce sont des inspirations.
Ouais, des inspirations.
Il y a cette quand même très belle robe de rêver, quoi, qui est incroyable.
C'est le cas,
avec ce cordon dans la nuque, là, c'est vraiment très très beau.
Très très belle cette robe. Ça lui fait une silhouette de sirène.
C'est marrant que tu en parles parce que une petite anecdote, c'est qu'en 1998, deux ans plus tard, pour la troisième édition des Sapins de Noël des créateurs qui avait lieu au Carrousel du Louvre, Paco Rabanne a présenté et donc mis en vente à but caritatif le même modèle que la robe que portait Mylène pour interpréter Rêver lors du Tour 96. Bien. Et ben on remercie une nouvelle fois Stéphane, l'incontournable Stéphane qui nous a accompagnés sur cette rubrique mode. Allez le suivre sur Instagram lmmf.mode. Histoire
de... Je vous le dis à chaque fois, mais à la rédaction d'HDMF, on fait des choix. Chacun a choisi son moment phare dans le spectacle. Oui. Et là, c'est moi qui commence. J'ai choisi Que mon cœur lâche. Moi, c'est vraiment mon moment préféré, même en live. On commence avec tout ce que j'aime, quoi. La goutte de sang qui tombe sur l'écran géant.
Oui.
Une Mylène qui apparaît en contre-jour avec une barre de pole dance.
Ouais.
C'est énorme.
Étonnant.
On retrouve deux danseurs suspendus au-dessus de la scène, chacun dans une bulle de plastique, forcément. Et les danseurs sont vêtus, comment dire?
Bon, très légèrement.
Ils nous le feront savoir tout au long de la chanson, d'ailleurs, avec des chorégraphies assez suggestives. Moi, je note surtout aussi la fin du passage avec la référence directe au clip réalisé
avec
par Besson, avec le cœur qui explose. Et rien que pour ça, moi, je trouve que c'est génial d'avoir réussi à retransposer le clip doucement sur la scène. Je trouve ça très joli.
Et le pole dance, c'est vraiment encore ce côté californien. On est toujours dans la bonne thématique.
Elle suit California, d'ailleurs, et c'est pas
très
pour
bonne
rien.
Place dans la set.
Et puis musicalement, superbe réécriture de la chanson.
Bastien, c'est à toi.
Alors, à votre avis, quelle chanson j'ai choisi?
Et Tournoi.
Ben non, évidemment, Je t'aime, Mélancolie. Moi, je suis vraiment devenu fan en entendant cette chanson dans cette version. Donc moi, j'ai découvert la vraie version de Je t'aime Mélancolie très tard. Et
en fait, c'est bizarre. Hein.
C'est un peu bizarre. Chose. Déjà, la chanson de base joue sur le côté chanson un peu dance up tempo, mais avec un texte un peu sombre, cynique. Et là, on part dans une espèce de réorchestration totalement joyeuse, lumineuse, fraîche. Il y a une super troupe sur scène pour l'interpréter. Le pont avec cette guitare électrique qui sature, c'est incroyable.
Pratiquement pour toutes les chansons du spectacle, Laurent Boutonnat, il a changé les tonalités par rapport aux versions originales, et il y a certaines chansons qui ont trouvé, je trouve, leur tonalité, et c'est le cas de Je t'aime Mélancolie. C'est vraiment sa tonalité, celle-là.
On va passer à Thibaut. T'as choisi quoi?
Libertine.
Moi, Libertine, c'est pas une chanson que j'aime nécessairement, mais j'ai voulu choisir parce que ça représente vraiment la réinvention totale. Libertine, c'est quand même la fête, les saxos, c'est les années 80, Libertine, quand même.
Sûr.
Le titre est totalement repensé, tout est remis à plat en version rock. Ça peut faire écho à ce que tu disais, Bastien, sur Je t'aime Mélancolie, mais comment ils ont pris les vieilles chansons, entre guillemets, hein, parce que Libertine n'a que 10 ans à ce moment-là, et même les chansons de l'autre, de l'album L'autre, pour les mettre à la couleur anamorphosée. Oui. Et le travail de réorchestration est magique, fait de l'album live un bijou.
Complètement. Voilà. Non, et puis en plus, c'est étonnant parce que c'est très peu fidèle à l'original, mais ça garde la même folie. Mmh. Puis ce moment de break d'Abraham Laboriel Jr.
On l'aime, Abraham.
Comment s'enlacer.
Puis la mise en scène sur son fauteuil.
Fauteuil qui fait un peu penser à la période, les fauteuils 18e. Oui. Donc il y a un petit lien, un petit clin d'œil avec le...
Oui, avec le clip.
Dans la setlist, Libertine est juste avant l'instant X. Comment enchaîner deux titres aussi différents dans leur version studio ? C'est une réussite parfaite.
Autre moment phare, Ludo, pour toi, t'as choisi quoi ?
Bon, on écoute, j'ai même pas besoin de le dire. Comme sur le tour 89, c'est absolument redoutable. C'est les deux orchestrations qui sont vraiment géniales, quoi. On ouvre sur le gimmick, les lumières sont géniales, il y a des drag queens. Alors il faut comprendre aussi qu'on était dans l'époque des drag queens,
ah bah oui.
Vraiment. Ça faisait partie des lignes qui bougeaient, c'était neuf et pas que du spectacle, c'était un peu un nouveau phénomène d'extravagance et de liberté, c'était génial.
Oui, mais
quoi.
Surtout quand tu vois qu'aujourd'hui c'est encore plus à la mode.
Non, je trouve que c'est vachement intelligent de les incorporer à la chanson. Puis c'est la fête, c'est la joie musicalement, c'est excellent. Et c'est un des moments où Mylène Farmer vraiment. Je trouve qu'elle veut déplacer les foules et elle a une énergie dans la voix, elle a une rage.
Ouais. Ah ouais.
Alors, vous savez, pour l'ado que je devenais en pleine période Spice Girls, moi j'ai rencontré Mylène Farmer avec ça. Pour moi, Mylène Farmer, c'était pas du tout morbide, blafarde. Pour moi, c'était la 6e Spice Girls. Hein. Wow. C'était Shy Spice, quoi, vraiment.
Shy Spice.
C'est vraiment la dernière version digne de ce nom.
Je suis d'accord. Oh.
Le seul autre titre rescapé de 89, totalement repensé, totalement réinventé, c'est aussi une réussite.
Et quitte à rester dans les moments cultes, on va rester avec un autre titre, Clément.
J'ai volé Désenchanté
à tout le monde.
À tout le monde.
À tout le
monde. Moi, je suis absolument électrisé, hypnotisé par cette version live. À mon sens, c'est la meilleure de
évidemment.
Tout. Elle a surtout quelque chose pour elle que les autres n'ont pas. Et pour cause, c'est la magie de la première fois. Jusque-là, voilà, c'est un succès de vente. Mais Mylène, sur les premières dates de la tournée, bah, elle découvre la réaction vraiment du public en live, la ferveur, quelque chose d'immédiat. Musicalement, la réécriture pour le live, et moi, je la trouve absolument parfaite. C'est un arrangement très live, très direct. Visuellement, c'est très ancré dans le milieu des années 90. C'est un peu ambiance rave party, etc.
Très voilà. Dance machine.
Pour finir, je voudrais offrir une exclue HDMF.
Yeah.
Oui, mais une vraie exclue. Je parlais de la magie de la première fois. Eh bien, je vais vous faire écouter quelque chose que vous n'avez jamais entendu ailleurs. C'est Laurent Boutonnat lui-même qui nous donne son ressenti sur le tableau Désenchanté. C'est une interview de Laurent Boutonnat par Mathias Goudot pour un livre sur la chanson française sorti en 1998. Écoutez.
Moi, je me souviens d'avoir pris conscience comme ça. J'étais dans la salle, à Bercy, donc à la console son, donc au milieu de la salle. Et tout d'un coup arrive Désenchanté. Donc hurlement, et tous les gens chantaient, du début à la fin. Et tout d'un coup, j'ai pris conscience des paroles que je connaissais, mais je voyais tous ces gens qui étaient là en train de sauter en l'air, de frapper dans les mains, en chantant ce texte. Tout est chaos, c'était assez incroyable ça. Je sais pas si quand on chante en général une chanson, on a vraiment conscience de ce qu'on chante. C'est comme les tubes américains, les gens connaissent pas le sens des mots, ils les retiennent phonétiquement. Vous devenez spectateur de quelque chose, là j'étais dans le spectacle, et puis tout d'un coup je voyais tous ces bras se lever, ces gens sauter, chanter à tue-tête, et j'ai regardé autour de moi, j'entendais tous ces mots, et tous ces gens heureux, en train de chanter, crier, taper dans les mains, en rythme, etc. C'est le moment... ça explose vraiment. Dans n'importe quelle ville de France, c'était incroyable.
L'intégralité de l'interview est sur ton site. Hein. Le lien est sur histoire2mf.com.
Oh, mais c'est génial.
C'est génial de voir ça. Oui. Vous avez vu, il dit « Je me suis rendu compte des paroles. » Mais il était temps.
Oui. Non, parce que quand on est compositeur, les mots, c'est un son, la voix, c'est un instrument. Donc c'est pour ça qu'on n'entend pas forcément les mots.
Il se rend compte de la popularité de
sa
chanson.
Oui, parce que des gens chantaient, c'était peut-être pour eux que des chiffres. Hein,
c'est ça,
des
ce que j'allais dire. C'était juste 600 000, 700 000 albums.
C'est comme nous, quand vous nous écoutez, on ne sait pas.
Cette chanson est très bien résumée par cet enregistrement du live à Bercy quand elle dit cette chanson est la vôtre.
Ouais.
Et voilà, en fait, c'est là qu'ils s'en rendent compte.
Ils s'en rendent compte maintenant.
Au niveau de la réalisation du film, il y a une sorte de clin d'œil. La dernière fois qu'on a quitté en images Désenchantées, on voyait cette plaine avec ces gens marcher.
Bien
et
sûr.
Là, on introduit la chanson avec la troupe qui marche aussi dans le blanc et la chanson arrive.
Et sur les mêmes nappes
voilà.
que dans le clip.
Très très malin.
On enchaîne avec la deuxième partie de l'épisode, les souvenirs de tournée. Ici sur Histoire d'eau, on a mieux que Jean-Jacques Bourdin ou Pascal Proulx, vous me direz, c'est pas très difficile. Tout de suite, les auditeurs ont la parole avec Bastien.
Et oui, bah, vous savez, c'est mon hommage à mon maître Jean-Jacques Bourdin. Moi, je l'adore. Beaucoup d'enthousiasme au standard. Hein.
Ouais. Ah, trop bien.
Vous étiez extrêmement nombreux à vouloir témoigner de votre amour pour cette tournée. Et je vous le dis, franchement, ça a été très, très, très compliqué de se faire juste une petite sélection, d'en prendre qu'une poignée. Donc vraiment, merci encore à tous, parce qu'on a vraiment lu tout ce que vous avez
merci
envoyé.
À
merci
à tous.
Merci beaucoup.
Alors, on y va, c'est parti. Yeah. Mon premier souvenir fut l'achat des billets. Ce n'était pas comme aujourd'hui, pas d'internet. On achetait chez le disquaire et on avait un beau billet correspondant. À l'affiche se rappelle Geoffrey qui était à Lille, le tour 96 que j'ai vu à Bercy et mon plus intense souvenir d'elle sur scène, nous raconte Gaëlle. Ce concert est pour moi le parfait dosage entre la Mylène inaccessible et la Mylène sans phare. Nous la découvrions et elle se découvrait, anamorphosée, ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre.
Oui, c'est une très belle formule.
Ouais,
hein.
Très beau.
Une découverte de la chanteuse accompagnée d'une découverte de soi que raconte très bien Fabien. Il était aux arènes de Nîmes en novembre.
Le tour 96 a été mon premier concert de Mylène Farmer et aussi mon premier concert tout court. J'avais alors 14 ans. Et finalement, depuis ce concert, je n'ai raté aucune montée sur scène de Mylène. Je me suis mis à chercher à comprendre ses paroles. Je me suis ouvert à toutes ces références qui ponctuent son œuvre. J'ai découvert la tolérance et surtout, j'ai découvert qui je suis. En somme, c'est ce concert qui fait de moi la personne que je suis aujourd'hui.
Bon, c'est très fort. Hein.
C'est
voilà, bah, donc une première fois pour Fabien, comme pour notre Sylvain et comme pour Claire.
Alors le Tour 96, j'avais 10 ans, c'était mon tout premier concert. Et je me souviens surtout de l'entrée de scène qui était complètement dingue. C'était un moment très intense pour moi. J'ai adoré voir une Mylène joyeuse et performeuse même, je dirais. Et aussi, c'était un concert assez gai dans les deux sens d'ailleurs. Enfin bref, voilà, le Tour 96, c'était ma première rencontre avec Mylène. De très belles émotions, très très intenses.
Voilà, donc c'était vraiment l'époque des premières émotions. Laetitia nous raconte son expérience de la toute première date à Toulon. Wow. Je prendrai mon billet de concert sans même vérifier la disponibilité des trains. M'en coûtera un Paris-Toulon de nuit dans le wagon-restaurant, car il n'y avait plus de place réservée. Wow. Qu'importe, je me souviens de l'excitation intense, impossible de dormir. J'ai monologué sur Mylène devant deux nanas qui étaient par hasard dans le même train. Les pauvres, j'espère que je ne les ai pas traumatisés. Elle ajoute plus loin, c'est l'une des journées les plus intenses de ma vie. Je me revois dans cette salle, ancrée profondément cette sensation d'être au paroxysme du bonheur.
C'est fort hein, quand même.
Ouais.
C'est
très fort.
Et il y a une date qui a été particulièrement intense, c'est forcément celle de Lyon, dont vous avez été plusieurs à nous en faire le récit. Le fameux 15 juin 96 à la Halle Tony Garnier, cette date où Mylène va chuter à la toute fin du concert et se casser le poignet. Sébastien était présent et il se souvient.
C'est un concert que j'avais adoré, qui est toujours mon concert préféré et qui a été un petit peu entaché par cette chute à la fin de son troisième rappel pour XXL. Et ça a été un grand choc pour tout le monde dans la salle. Je me rappelle de ce silence impressionnant qui est tombé. On a attendu, il me semble, une dizaine de minutes avant que quelqu'un monte sur scène et nous dise que Mylène allait bien et que le concert est terminé. Et on est tous sortis dans un calme olympien, très sagement.
Ah, ça devait être étrange.
Oui, on passe de la fête au drame.
Donc on imagine bien la scène. Axel était dans la salle aussi. Et elle, en voyant chuter la chanteuse, elle tombe carrément dans les pommes et se réveille à l'infirmerie.
À mon réveil dans l'infirmerie, je répétais en boucle, inconsolable et égarée, « Mylène est morte, Mylène est morte ». Le secouriste qui s'occupait de moi m'a alors tourné la tête pour me montrer la civière d'à côté. « Mais non, regarde, elle n'est pas morte, elle est là. On s'occupe d'elle, ne t'inquiète pas. » Et là, j'ai vu notre Mylène dans sa civière, rigide, avec un corset, une minerve et une pâleur telle qu'elle n'avait pas l'air bien vivante. La nuit à attendre derrière a été terrible. Et dès le lendemain matin, j'étais devant son hôtel, où j'ai eu la chance de croiser Laurent Boutonnat, qui rentrait de la clinique. Il m'a rassuré et a pris mes fleurs pour sa chambre.
Voilà, donc Mylène sur la civière d'à côté, on s'en souvient, je crois.
C'est génial comme histoire.
Et la cohue que c'était pour avoir de ses nouvelles le lendemain. Hein. Vous êtes beaucoup aussi à nous faire le récit de ses attentes de fans devant chacun des hôtels où elle restait, des autographes, des mots échangés. C'était vraiment une période, encore une fois, d'effervescence. Beaucoup l'ont rencontré à cette époque. Hein. Vous êtes plusieurs à témoigner de ça. C'est le cas de Marc, par exemple, qui la croise justement le bras dans le plâtre à Paris un mois plus tard. C'est le cas aussi d'Alexandre qui a vécu comme dans un rêve, alors qu'il n'était qu'un enfant et qu'il a pu rencontrer la chanteuse dans les coulisses de son Bercy de décembre.
Carrément.
Il avait été invité par une amie dont la mère travaillait pour Thierry Suc et il est même passé par les coulisses pour se mettre en place dans le public, donc il a même aperçu les costumes de scène en backstage. Oh. On écoute Alexandre.
J'ai pu rencontrer Laurent Boutonnat, Abraham Laboriel Junior, Valérie Bonny, Donna Delory et Yvan Cassar. On a assisté au concert et une fois le concert fini, on a pu participer à l'after show avec tout le gratin télé qui était présent. Au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, Mylène a fait son entrée et tout le monde l'a applaudi. Elle semblait très mal à l'aise. J'ai donc pris mon courage à deux mains pour m'avancer vers elle et lui demander si je pouvais faire la bise. Il faut savoir qu'à l'époque, j'avais que 14 ans. Et elle acceptait avec un grand sourire et là, je lui ai dit que j'adorais ce qu'elle faisait. Je l'ai trouvée à ce moment-là vraiment très belle, très douce et vraiment chaleureuse avec moi.
Superbe
souvenir.
C'est
génial. Génial, on est tous jaloux.
Exceptionnel. Wow.
Enfin, petit bonus, un document envoyé par Cricri. Qui avait débriefé avec son cousin les concerts à la sortie de Bercy. C'est donc un document d'époque. C'est un débrief à chaud du concert.
Génial. Nous sommes sur les marches devant Bercy, après le concert. Presque à l'endroit même où nous avons entendu 4 heures avant le concert, avant de pouvoir rentrer. Nous avons titillé, nous avons trépigné. Il y a eu une ambiance du tonnerre juste avant le concert. On a fait la hola, on a crié Mylène, Mylène, Mylène. Le gros délire, c'était au début de Alice. Parce qu'on a vu Mylène descendre sur le dos d'une araignée. On avait imaginé ça une semaine avant le concert, mais seulement on n'avait pas imaginé avec Mylène, on avait imaginé avec Alice Cooper. On avait imaginé quand même. Donc, prémonition incroyable.
Donc là, on voit en fait à l'époque, zéro image du concert. Donc, il nous raconte que cette découverte de Alice, ils n'en savaient rien. Donc, c'était un peu la magie de ces moments.
Génial.
En tout cas, une nouvelle fois, merci à tous pour tous vos témoignages.
Merci,
assurez.
Très beau.
Après vos meilleurs moments, on va savoir ce qu'a retenu la presse de ce spectacle avec Bastien encore une fois.
Bah oui, parce qu'on le sait, à l'époque, les fans attendaient le retour de Mylène Farmer, la presse aussi, et elle en a pour ses yeux. Beaucoup retiennent l'influence américaine et la modernité du spectacle. Sa dernière tournée remonte à 1989. Depuis, l'Amérique a coulé dans ses veines et le spleen s'en est allé, résume l'Est républicain. Mylène Farmer propose la suite américaine pour le journal belge Le Soir, qui la voit également en menus de revue high-tech. La Dépêche du Midi voit une Farmer sexy cyber. Le Progrès, lui, y va de sa comparaison en titrant Madonna Farmer. C'est Cléopâtre Hollywood et Michael Jackson réunis pour le Parisien, drôle de cocktail.
Ouais.
Ce spectacle avait tout, techniquement, de celui avec les Stones ou les Pink Floyd à double Jean-Dominique Burtin dans La République du Centre. Même comparaison pour Emmanuel Kérad dans L'Officiel des Loisirs. Son spectacle est un véritable show à l'américaine, à tel point que le concert rappelle celui du retour des Pink Floyd ou celui de U2. À ne pas rater, c'est le concert de l'année.
Wow.
Mais il y en a une qui aurait bien aimé rater le concert, c'est Christine Palaz, pour la publication Printemps dans laquelle elle titre « Mylène Farmer en vidéo, c'est mieux
wow. ».
C'est direct. Wow. Hein.
Et de développer « Les jeunes y croient parfois jusqu'à l'évanouissement, les vieux, eux, s'emmerdent. Avouons-le, moi aussi, du haut de mes 30 ans, la star ne convainc pas. Elle est statique, souvent assise, rarement spontanée. Vraiment, cette libertine est mieux dans ses clips.
À quelle date elle a assisté?
Et puis elle écrit bien.
Et puisqu'on est chez les râleurs, on va y rester. Vous le savez,
La Voix du Nord.
Ça devient une série à épisodes dans cette revue de presse. Mais La Voix du Nord, une nouvelle fois, commente le fait qu'ils ne puissent pas envoyer leurs propres photographes au spectacle. Et ils illustrent leur article d'une caricature d'une femme se cachant derrière la pochette de l'album Anamorphose. Et dans le Nord, il y a une ligue, hein, car Nord Éclair, il va aussi de son commentaire. La vilaine Farmer réserve sa plastique irréprochable à un photographe privilégié, le sien. Pas d'illustration dans Nord Éclair, donc, mais un paquet de bons souvenirs quand même. Bon. Vilaine Farmer, on s'en passera. Des bons souvenirs, ils en ont sûrement passé beaucoup. Je parle des musiciens, car Ludovic, ça va te plaire, beaucoup d'articles de presse parlent et présentent les différents musiciens à cette époque qui accompagnent la chanteuse lors de sa tournée. C'est le cas, par exemple, du journaliste Lionel Paoli, qui écrit dans Le Provençal, Abraham Laboriel Junior déchaîne la foudre du bout de ses baguettes baguette. Oui. Jeff Dahlgren et Brian brodent des merveilles en dialoguant par guitare interposée.
Totalement.
Jerry Watts à la basse, Suzy Davis et Yvan Cassar au clavier ramènent sans cesse le show à l'essentiel.
Ah, ils sont bien, ces gens.
Il a bien résumé.
Oui, très bien.
Côté anecdote, bien sûr, la presse s'empare de cette chute à Lyon. Le journal lyonnais, justement, s'amuse en titrant « Tombé une fois ». France Dimanche y va de son titre racoleur « Drame au cœur de son show ». Trop chaud.
Ah, on est dans France Dimanche.
France Dimanche qui publiera d'ailleurs la semaine suivante une paparazza de Mylène le bras dans le plâtre. Enfin, cette jolie histoire relatée par Nice Matin après la première à Toulon, celle d'un sauvetage opéré par Mylène elle-même. Mylène Farmer en pince pour les tourteaux, nous annonce l'article. Je vous raconte. Cela se passe lors d'un dîner d'après-spectacle à Toulon, au restaurant Le Lido. Vers 4h du matin, elle aperçoit deux tourteaux dans l'aquarium du restaurant. Un spectacle qui lui a déchiré le cœur, raconte le journal. Elle s'est alors dirigée vers Jean-Claude et Berthe, les restaurateurs, et leur a gentiment demandé s'ils pouvaient libérer les crustacés. Pour moi, a-t-elle dit, c'est un symbole. Et l'on a vu Mylène, suivie de toute son équipe et de quelques dizaines de fans qui l'attendaient sur la plage, se diriger vers la mer avec le contenu du vivier qui a été déposé le plus au large possible.
Pas... Thibaut, il en peut plus.
Non, mais je visualise la scène, en fait.
Il faut l'imaginer avec ses plateformes shoes. Ouais,
c'est ça, plage. Heureusement qu'elle n'était pas en visite aux eaux de Vincennes. Hein.
Merci, Bastien. Je vais vous faire une confidence. C'est un des moments préférés qui arrive maintenant. C'est les coulisses et anecdotes.
Ah, j'adore.
Avec l'instant Clément.
Psst. Oui.
Chut, chut. C'est l'instant Clément.
Je découvre en même temps.
On a fait 11 épisodes, mais on a encore des surprises. Hein.
Écoute, ça te va comme un gant, ce jingle. Oh,
notre Jessica Fletcher.
C'est moi.
Alors,
moi, pour commencer, je voudrais insister sur le fait que ce qui caractérise le Tour 96 avant tout, c'est la spontanéité. S'il y a évidemment des choses très calées, c'est indispensable dans un spectacle, c'est le seul show de Mylène Farmer où aucune représentation ne ressemble vraiment à l'autre. À chaque date, ses spécificités. Par exemple, plusieurs titres ont ce qu'on appelle une pré-introduction.
Un interlude.
Sur l'album Live à Bercy, alors seules quelques-unes d'entre elles seront immortalisées. En réalité, il y en avait plus et l'intérêt est qu'elles étaient différentes vraiment chaque soir. Alors, entendons-nous, il y avait bien sûr un modèle pré-écrit, mais au fil des représentations et des improvisations des musiciens, ces pré-intros se sont enrichis considérablement. Sur l'album live, on perdra hélas la pré-intro aérienne de Que mon cœur lâche, celle de Je t'aime mélancolie qui était assez mystique avec des accents un peu asiatiques.
C'est celle qu'on entend en fond.
Celle de l'autre et enfin celle de Sans contrefaçon avec son rythme martial.
Et même les intros qu'on retrouve dans le CD sont jouées différemment chaque soir, par exemple celle de Libertine. Ce qui est génial, c'est que la manière de jouer est très baroque en fait.
Complètement,
comme
c'est
le
ça,
clip,
c'est, baroque, ouais.
C'est très en rapport.
Mais là aussi, c'est la formation classique de Cassar, etc.
Et d'ailleurs, je trouve que les intros qui étaient faites avaient souvent aucun rapport avec la chanson qui allait suivre.
C'est vrai, c'est vrai.
Ils ont fait un bon choix dans ce qu'ils ont gardé
oui,
sur l'album live.
De ne pas
live.
Les intégrer.
Dans le spectacle, Mylène est très à l'aise et ça se traduit par quelque chose de totalement inhabituel pour elle. Mais pendant le show, elle descend de la scène pour aller au contact du public, serrer des mains et même parfois tendre son micro pour faire chanter avec elle le premier rang.
Ah ouais.
La première fois que ça se produit, c'est au concert de Bordeaux. Où elle descend de scène sur Mylène s'en fout. Le lendemain, elle refait la même chose à Toulouse, mais cette fois sur Désenchanté. Mais alors, il y a un premier accident, c'est qu'elle ne se rend pas compte que la scène est très très haute, environ 3 mètres de hauteur, et elle perd l'équilibre, elle tombe de toute sa hauteur.
Oh là là. Déjà.
Mais elle se relève aussitôt. Voilà. Ça préfigure, hélas, ce qui va se passer quelques jours plus tard à Lyon. Et autre chose totalement inhabituelle dont tu as un petit peu parlé, Bastien, tout à l'heure, effectivement, beaucoup de gens ont pu rencontrer Mylène pendant la tournée. Pourquoi ? Parce que Energy, qui est l'un des sponsors, a organisé à plusieurs reprises, lors de la deuxième partie de la tournée à l'automne, des concours sur ses antennes régionales pour gagner rien de moins qu'une rencontre backstage avec Mylène.
C'est impensable aujourd'hui.
Dans le domaine des imprévus, il y a un moment cocasse, comme on peut le voir sur le film du spectacle, sur les derniers refrains de Libertine. Il y avait un petit jeu de scène. En fait, Mylène était cachée de la vue du public par ses danseurs, pendant que ses deux danseuses l'aidaient à enfiler un pantalon qui complétait sa tenue pour la chanson suivante.
Mm-hmm.
Seulement le 6 juin à Bruxelles, Mylène a bien du mal à enfiler son pantalon et quand les danseurs s'écartent, le public voit Mylène avec l'avant du pantalon qui pendouille, à moitié accroché d'un côté. Là encore, la spontanéité l'emporte. Elle est la première à s'en amuser et elle interpelle le public.
Comme ça, c'est pas mal.
Elle donne un petit coup de rein en même temps, c'est mignon.
Et ensuite, il y a eu au fur et à mesure de la tournée des petits ajustements sur le déroulement du show. Par exemple, pour la toute première représentation donc à Toulon fin mai, sur Je t'aime Mélancolie, c'est les jeux de lumière sur le pont de la chanson. Sur la vidéo, on voit des façons stroboscope comme ça. En fait, ces jeux de lumière vont beaucoup évoluer, ils vont être totalement modifiés à la reprise de la tournée. Mmh. Et puis à Nîmes, tu l'as dit, Bastien, ça se passait aux arènes de Nîmes. Mais alors, on est au mois de novembre, donc les arènes en fait étaient recouvertes d'une bulle transparente. Ah, et ouais, comme on est dans des arènes antiques, il y avait un problème avec le poids de l'écran. Donc c'est le seul concert de la tournée où l'écran ne bouge pas du tout de tout le spectacle.
Ah, d'accord.
Et puis en fin de tournée, il y a deux surprises. La première, c'est à Bercy le 12 décembre. Le 12 décembre, c'est l'anniversaire d'Yvan Cassar, le directeur musical. Et Mylène, après Ainsi soit je, elle interpelle le public, elle l'invite à chanter pour Yvan Cassar.
Ah,
joyeux anniversaire. La deuxième surprise, et c'est une grande première, c'est lors de l'ultime représentation à Caen, le 15 décembre. Sur Désenchanté, Mylène fait monter sur scène avec elle une spectatrice.
Ah oui, donc c'est la première fois.
Mais la plus grosse surprise du Tour 96, elle a lieu à Marseille le 14 juin. Si je vous dis que la bande originale du film Giorgino, le film de Laurent Boutonnat dans lequel Mylène, si je vous dis qu'elle a été jouée live sur scène, vous allez me dire, enfin, on le saurait quoi.
On le saurait, ouais.
Merci Sylvain. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé ce soir-là. Comme tu l'as rappelé Ludovic au début, Yvan Cassar, il a travaillé sur la bande originale de Giorgino et c'est sans doute en guise de clin d'œil que ce fameux soir à Marseille, il remplace certaines des pré-intros dont on vient de parler par des extraits de la musique de Giorgino. Écoutez, vous allez reconnaître quelques thèmes de la bande originale de Giorgino.
Mais parce que les fans savaient, ils font les loups et tout. J'ai enchaîné avec la vraie BO.
C'est génial, hein.
Ah ouais, vraiment, chaque date était différente.
Ouais, ça c'était Sombre Souvenir et ils l'ont refait avec aussi le thème de Giorgino.
Ah oui, là, c'est le montage avec la BO. Oui.
Giorgino a eu vie sur scène.
Exactement. Et pour finir, il y a un fort moment d'émotion dans le spectacle. Hein, c'est sur Laisse le vent porter tout. Sur l'album Live à Bercy, Mylène explique qu'elle a écrit la chanson pour quelqu'un qui a disparu. Lors du concert de Bruxelles, elle précise de qui il s'agit, en l'occurrence son papa.
Cette chanson à tous ceux qui me manquent. Parce que j'ai écrit cette chanson, j'ai pensé à mon papa qui a disparu et qui me manque beaucoup. Le choix de laisser partir cette personne en pensant qu'elle est heureuse ou le choix de la retenir ici avec soi et vivre malheureusement, j'ai préféré choisir que cette personne s'envole.
C'est un très beau moment.
Et puis à Marseille, elle le réitère à nouveau en parlant de son papa. Pourquoi? Parce que précisément, il était né à Marseille.
C'est aussi unique parce qu'elle n'explique jamais ses chansons et le sens de ses chansons et à qui elles sont possiblement dédiées.
Tout à fait.
C'est clair et net. Elle dit c'est mon père.
Puis elle parle de sa vie privée, de sa famille, ce qui n'arrive jamais en fait.
On passe à la troisième et dernière partie de l'épisode, l'exploitation en album de la tournée. Après tout ce qu'on a entendu pendant cet épisode, et c'est comme ça à l'époque, on a envie d'avoir le CD et le film, Thibaut.
L'album live du Tour 96 est enregistré à Bercy et sort dans le commerce le 20 mai 1997 sous le nom de Live à Bercy, tout simplement. Le double CD est un énorme carton, plus de 700 000 exemplaires vendus, certifié double disque de platine et 4 semaines en deuxième place du top album, derrière Andrea Bocelli et Era, devant Pascal Obispo, Michael Jackson et les Spice Girls. Yeah,
700 000 pour un album live, c'est énorme.
C'est en disque le plus gros succès live de Mylène Farmer. Le film du live, quant à lui, co-réalisé par Laurent Boutonnat et François Rance, est aussi un très beau succès avec plus de 300 000 VHS et DVD écoulés. Wow.
C'est l'arrivée de François Rance à la réalisation.
Il était assistant sur le Tour 89.
Et là, il est vraiment co-réalisateur avant de devenir réalisateur unique.
J'adore la réalisation de ce concert parce qu'il est très caméra épaule, ça bouge tout le temps.
Ouais,
on sent que c'est vif. Et même si parfois, il y a peut-être mettre des faux raccords, c'est pas l'essentiel.
On la voit trois fois se retourner quand même pour certaines scènes. Pour Alice, tout à l'heure, Thibault l'évoquait dans la mise en scène. C'est jamais la même place, machin. Mais ça donne quelque chose en plus, justement, avec ça.
Oui, il y a une vision artistique et une direction artistique. Et par exemple, sur California, si vous regardez un peu, il y a des plans qui bougent beaucoup sur elle, qui dézooment, qui rezooment, etc. Mm-hmm. Ils ne cherchent pas la technique absolue, ils cherchent la beauté d'un plan et le dynamisme de quelque chose. Et c'est ça qui est essentiel dans la réalisation du live à Bercy et non pas les faux raccords. L'important, c'est que ça transmet l'énergie du concert et c'est ça l'intéressant. C'est génial.
Et puis, on va parler aussi du CD, quoi. Le son du live, il est juste énorme, il est profond. Et puis surtout, il est très 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 fidèle, quoi.
Ouais. Prise de son de Thierry Rogène, mixée par le brillant Bertrand Chatenay.
On serait pas contre quand même un Blu-ray du film mis en 16/9, parce qu'en fait il est en 4
format
tiers,
d'origine. Hein.
Au format d'origine, bien
c'est
sûr.
Parce que c'est le format des télés de l'époque.
Oui, exactement. Oui, Thibaut, deux singles seront extraits de cet album live avec deux clips. C'est quoi?
D'abord, je voudrais revenir 2 ans avant la sortie du live. Hein. Ah. Nous sommes en pleine campagne présidentielle et Jean-Marie Le Pen organise des meetings où il a la bonne
idée qu'il fait là, lui
pour divertir son public de faire monter sur scène des sosies, dont une sosie de Mylène Farmer,
n'est-ce pas?
Et à l'époque, pas de réseaux sociaux et la rumeur enfle, hein, des personnes appellent même la maison de disques de Mylène pour savoir si oui ou non elle participe au meeting du Front National. Mylène Farmer ne peut laisser passer ça et contacte le 20h de France 2 pour faire passer son message.
Je suis scandalisée d'apprendre que Monsieur Le Pen ait pu utiliser mon image et tromper les gens de cette façon. Je trouve que ce procédé est révoltant, c'est scandaleux. Et je suis surtout triste, profondément malheureuse que les gens qui m'aiment bien aient pu penser un instant que je puisse cautionner une telle politique. Il y a des personnes qui ont appelé la maison de disques et qui ont fait l'amalgame, qui n'ont pas pensé une seconde que c'était un sosie.
Et Jean-Marie Le Pen lui a répondu.
Grâce à ça, j'aurais connu le nom de Mylène Farmer, j'en avais jamais entendu parler.
Mylène Farmer en colère, hein.
Ah ouais. Qui sort de sa réserve habituelle.
Ouais, elle veut pas parler aux médias, là.
Ouais. Et de politique en plus.
Oui, voilà.
Ouais.
L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais un an plus tard, Mylène Farmer lance son tour 96 en grande pompe au Zénith de Toulon, ville devenue récemment FN depuis les élections municipales de 1995.
Elle cherche un peu.
Et on interroge d'ailleurs Mylène en interview sur ce sujet, notamment Paul Amar sur Paris 1ère.
Le fait d'aller chanter à Toulon, vous n'a pas posé de problème? Vous avez réfléchi? Vous avez hésité? Vous...
Non, non. Je sais quels sont les problèmes à Toulon. Maintenant, ma vie est celle du spectacle. Donc pourquoi refuser que d'aller dans cette ville? Tous les gens n'ont pas choisi... Une fois de plus, ce qui s'est passé, ce qu'il s'y passe. J'y ai pensé, bien évidemment. Maintenant, j'ai décidé d'y aller. Et le Zénith de Toulon est une très très belle salle. Mmh. Et le public était magnifique.
Et des gens de la municipalité vous ont pas agressé, vous ont laissé faire?
Pas du tout. Il n'y a pas
eu de problème.
Aucun problème. Aucun.
On lui pose ces questions parce qu'il y a beaucoup de chanteurs qui avaient annulé leur passage à Toulon en signe de protestation contre le Front National. Okay. Mais heureusement, Mylène prendra le contre-pied au mois d'octobre 1996 en faisant quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années 80 et qu'elle n'a plus jamais refait ensuite, un duo inédit pour une émission de télévision, une reprise de La Poupée qui fait nom de Michel Polnareff avec un chanteur de Rai, Khaled.
Ils ont exactement fait comme avec les chansons des années 80 et des autres albums de Mylène Farmer, ils les ont anamorphosées complètement.
Khaled, c'est le protégé de Pascal Nègre, hein, qui est alors le président de Polygram, qui devient en 1999 Universal Music, auquel appartient Polydor, le label de Mylène à l'époque. Et Khaled, c'est le carton de la rentrée 96 hein, avec son Aïcha, ultra tube écrit et composé par Jean-Jacques Goldman, qui reste classé 4 mois parmi les 3 meilleures ventes de singles. Comme je vous l'ai dit, ce duo a été créé pour une émission de télé, l'éphémère Tip Top, hein, diffusé en deuxième partie de soirée sur TF1.
Avec
et
Nathalie
même si
Simon.
On sent le gros coup marketing derrière, on sent quand même une jolie complicité entre les deux artistes.
Quand on a un duo, la première idée qui nous vient à l'esprit, c'est qui a eu l'idée et pourquoi cette chanson de Polnareff, Mylène?
C'est une idée commune. Nous avions envie de chanter ensemble et qui a eu l'idée? Nous aimons tous les deux Polnareff. Moi, personnellement, c'est, je crois, la première chanson que j'ai apprise.
Ah bon?
Il y a très très longtemps, oui.
Et la version, je dirais, plus arabisante, c'est Khaled, c'est toi, ça?
Ah bah oui.
Ils se sont tellement bien entendus que Khaled a rejoint Mylène sur 2 des dernières dates de la tournée, le 10 décembre à Genève et le 12 à Paris-Bercy. Le duo est capté et fait office de single de lancement du live en avril 97 avec un joli succès à la clé. Hein. Une 6e place au top single, hein, ce qui est très bien pour un single live, et plus de 80 000 exemplaires vendus.
C'est Yvan Cassar qui a rangé le titre.
Oui, Sylvain, effectivement, tu fais bien de le rappeler. Franchement, je l'adore, elle n'est pas très populaire chez les fans. Et ce qui est bizarre, c'est que j'aime pas du tout la version de Paul Naref, mais j'adore cette version.
Ah, j'aime les deux.
Si un jour on peut avoir la version studio quelque part, ça serait sympa.
En bonus du Blu-ray.
Et à l'époque, c'est le premier single sans aucune implication de Laurent Boutonnat, du coup.
C'est vrai.
Et en plus, c'est un single qui ne représente pas du tout la tournée, mais il a été fait que deux fois.
Bah, tu fais bien de souligner ça, parce que fait amusant, le second single extrait du live, c'est également un titre qui ne représente pas du tout la tournée, vu qu'il
n'a été interprété
que sur quelques dates. Hein. C'est Ainsi soit je dans cette superbe version piano-voix que Mylène chantera à la télévision sur TF1 en septembre 1997. Et petite anecdote, la robe Thierry Mugler qu'elle porte sur cette prestation, on la retrouvera pile 2 ans plus tard sur le clip Souviens-toi du jour.
Ouais. Et moi j'adore cette réécriture de Ainsi soit je, uniquement au piano. Ouais. Ça commençait à être la mode un peu des chansons réarrangées pour le piano-voix.
Avec des nappes de clavier aussi derrière.
La réécriture de Ainsi soit je comme ça au piano, c'est de la dentelle.
Oui.
On va passer à la conclusion de cet épisode. Avant de prendre un nouveau départ, on va faire le dernier tour de table et on va commencer par Thibaut.
Ah bah moi, le tour 96, c'est uniquement le live à Bercy, hein, oui. Évidemment. Je sais pas si je fantasme un peu ce spectacle via cette vision que j'en ai, qui est l'album et le film, hein, qui n'est pas nécessairement la réalité. C'est probablement, je crois, l'album que j'ai le plus écouté dans ma vie. Ce que je vais aussi noter, c'est la réinvention totale du personnage de Mylène Farmer versus le concert de 1989. Hein. Je trouve que là-dessus, il y a une réinvention qui est magistrale, hein, ouais. On peut dire, assez fabuleuse. Alors, je vais pas mettre une note aussi bonne que celle que j'ai mis pour le tour 2009 parce que je n'ai pas vécu, mais je vais du coup mettre une meilleure note que le tour 89, donc je vais mettre un joli 9 sur 10.
Wow. Wow.
Bastien.
Moi, écoutez, si je pouvais être comme George Orwell et avoir la machine à remonter le temps, j'irais voir la décapitation de Marie-Antoinette et le live 96.
Oh. Ah, viens avec toi.
Je prends que la deuxième partie.
Non, vraiment, Sylvain, t'as eu de la chance d'assister à ce moment. C'était, voilà, franchement, voilà. Pour moi, l'album live est indissociable de l'album studio qui a juste avant, hein, et de toute cette image, cette renaissance un peu du personnage, c'est là qu'elle a ce statut d'icône qui arrive, voilà. Ouais. Enfin, Thibaut, c'est comme toi, je pense que c'est un des albums que j'ai le plus écouté. C'est forcément rattaché à l'enfance, donc c'est forcément beaucoup plus fort. Et voilà, donc moi je mets aussi un 9 sur 10.
Ludo.
Bah vous savez, moi j'aime l'excès, alors les paillettes, les couleurs, les matières.
C'est vrai que tu aimes ça.
Ah ouais, l'extravagance, tout ça, ça me parle tout de suite, quoi. Et puis moi je trouve que c'était un très bon choix de tout renverser par rapport à 89 et de ne rien reprendre du concert précédent. Ils sont allés à l'essentiel, c'est spontané et ils ont simplement fait de la musique. Les arrangements, le jeu des musiciens, c'est brillant. Ouais. Après, on en a peut-être pas parlé, mais il faut savoir qu'aussi ce concert a perdu des fans, hein, parce que passer d'une Mylène Farmer gothique, etc.
C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais
à une Mylène Farmer très libérée, ça a dû être un choc pour pas mal de gens, je pense.
Et ta note, s'il te plaît.
Alors, d'habitude, je prends tout en compte. Le décor, tout, mais alors je vais faire une exception car contrairement à toutes les autres scènes de Mylène Farmer, j'estime que ce n'est pas un spectacle, mais un concert amélioré. Donc lui aussi, il est une exception. Et ce qui, contrairement sur cette tournée, c'est la musique, l'énergie, l'ouverture qui s'est passée à ce moment-là. Donc je vais surtout m'appuyer là-dessus et donner un 9 sur 10.
Merci Ludo. Clément.
Cette époque, c'est mes 15 ans. Et à cet âge, ce qu'on aime, on le garde avec soi pour la vie, un peu comme tu disais, Bastien, ce qui se rapporte à l'enfance. Et comme vous, j'ai écouté vraiment l'album, mais en boucle. Et quand je l'écoute encore aujourd'hui, j'ai 15 ans pour toujours.
Oh.
C'est toute la folie de cette époque, les couleurs, les ambiances. C'est vraiment mon préféré de toute la carrière de Mylène. Je suis inconditionnel de la direction musicale, ouais. Du look de Mylène. On n'a pas parlé de sa coiffure, mais voilà. Sa voix, les supports, les photos, tout. J'ai aucune réserve, c'est vraiment le cœur qui parle. Et même avec objectivité, de toute façon, tout ce qui se rapporte pour moi, c'est juste et parfait. Donc de tout mon cœur de 15 ans, je mets 10 sur 10.
Oh, premier 10.
Eh bien, tu sais quoi, Clément, je vais te suivre.
Ah,
c'est 10 sur 10.
Oh,
le show est parfait.
Et ouais.
Pour moi, ce live, c'est vraiment une renaissance pour Mylène. Tout à l'heure, l'un de vous l'a employé le mot aussi. Je trouve qu'elle a créé quelque chose dans la continuité, mais c'est plus la même chose. C'est devenu une icône. Moi, je pense à Sans Contrefaçon avec les Drag Queens. Je pense à la première fois de Désenchantée. Pour moi, ce show est juste parfait. Elle a 35 ans. Elle devient une icône. Si vous voulez vous écouter notre premier épisode sur Inamoramento, la suite le confirmera.
Oui.
Et pour moi, c'est un grand 10.
Ouais.
Super.
C'était Histoire de Tour 96, épisode 11, L'Effervescence, une émission conçue par Bastien, Clément, Ludo, Thibaut et moi-même, et réalisée
par Ludo.
Vous pouvez retrouver toutes les infos, les références, les autres épisodes sur notre site histoire2mf.com. Histoire
avec un S.
Salut à tous et merci.
Au revoir.